Canal Sud 92.2, bonjour. Ça se raconte histoire aujourd'hui. Je vais vous lire le blog de Melika Abdelmoumen. C'est une auteure québécoise qui a fait un blog donc sur Mediapart. Et elle nous raconte des histoires de Rome. Et avant de commencer, on va faire un petit peu de mathématiques. Oui, oui, oui. Alors, je vais être modeste en la matière. On va se limiter à une équation. Et une équation qui m'est hélas peut-être, quelquefois je pense, un petit peu personnelle. Moi je crois que un SDF égale un réfugié, égale un sans-papier, égale un être humain, égale vous et moi. Voilà. Et le grand dénominateur de tous ces gens, c'est l'humanité. Voilà. Et Melika m'a tout l'air de partager ce point de vue. Voilà ce qu'elle nous écrivait le 31 mars 2013, en citant d'abord Blaise Cendrars, Les Pâques à New York, donc un texte qui date, qui a à peu près un petit peu plus d'un siècle. Seigneur, la foule des pauvres, pour qui vous fîtes le sacrifice, est ici, parqués, tassés, comme du bétail, dans les hospices. D'immenses bateaux noirs viennent des horizons et les débarquent, pêle-mêle, sur les pontons. Il y a des Italiens, des Grecs, des Espagnols, des Russes, des Bulgares, des Persans, des Mongols. Ce sont des bêtes de cirque qui sautent les méridiens. On leur jette un morceau de viande noire, comme à des chiens. C'est leur bonheur à eux que cette sale pitance, Seigneur, ayez pitié des peuples en souffrance. Après quoi commence le blog de Melika. Ils sont là. J'ai du mal à le croire. Spectatrice de leur vie qui, malgré tout, se poursuit dans cette salle paroissiale où le père Mathieu Touvenot a bien voulu les accueillir. Le prêtre qui a décidé qu'il était hors de question que ces personnes soient jetées à la rue. Ils sont là. Et ils ne nous ont pas encore vus. Je suis avec Philippe et le petit. Nous apportons une dizaine de gâteaux marbrés en attendant d'en savoir davantage sur leurs besoins, dont je sais d'avance qu'il faudra une sacrée mobilisation de potes et de connaissances pour les combler. Dans la destruction du bidonville qui était devenu un chez-eux, dans la grande casse de leur cabane au moment de leur expulsion, ils n'auront sans doute pas pu emporter grand-chose. Ils sont là. J'en vois quatre ou cinq qui sont venus prendre l'air dans la cour, derrière l'église qui jouxte cette salle des fêtes où ils se sont réfugiés. Les autres sont à l'intérieur. Il serait une cinquantaine en tout. Nous nous avançons et ils ne m'ont pas encore vu. Me reconnaîtront-ils, comme ça, hors contexte, hors leur drôle de village où Anaïs et moi venions toutes les semaines? Nous continuons d'avancer et je vois l'une d'entre elles. Je lui souris. Elle me reconnaît tout de suite. Son visage s'illumine. Espoir et surprise à la fois. Elle continue de venir nous voir. Elle nous a trouvés. Sa grossesse a bien avancé. Elle tient son autre bébé sur la hanche Elle est toujours aussi belle. Je me rends compte que nous ne savons pas le prénom l'une de l'autre et qu'on s'en fiche. Nous savons l'humanité et la fragilité l'une de l'autre. C'est bien suffisant. Je cours vers elle et je fais la bise. Je lui tiens la main. Je lui présente Philippe et notre fils. Philippe surtout, à qui je parle d'eux, de leur bonté et de leur misère, depuis un moment, mais qui n'en a pas encore été témoin. La belle femme enceinte nous entraîne à l'intérieur de la grande salle. Ils sont éparpillés, assis à terre sur des couvertures. Les enfants jouent et courent et rigolent. Voici la belle Anna, mélancolique, avec son bébé au sein et son mari. Et la bonne maman, rondouillette et si souriante, avec ses joues qu'on croquerait. Et Jenny, la silencieuse, et le vieil homme que tout le monde appelle le papa. Soudain, deux ou trois d'entre eux me voient. Nous tombons dans les bras. Ils sont tous sourires et moi, je dois retenir mes larmes. Et puis ça fait un effet domino. Chacun me reconnaît, vient vers moi. Et que ce soit en français ou pas, ils me disent tous la même chose. « Tu nous as suivis !» Et puis vient ce moment où les gamines me voient et se jettent dans mes bras. Elles s'accrochent à moi en grimpe. Une des grandes de 10 ans me saute au cou et entoure ma taille de ses jambes. Mon fils sourit, étonné, mais capable de lire le bonheur sur le visage de sa mère. Je le présente à tout le monde. Les enfants et lui s'entendront si bien qu'il en faudra beaucoup pour le convaincre de partir tout à l'heure. Philippe est allé parler avec les deux bénévoles qui se chargent de distribuer les dons et de préparer des repas. Il me laisse à mes retrouvailles, mais je vois bien qu'il est troublé. Je n'ose pas leur poser de questions sur l'expulsion de jeudi. C'est une des grandes de 12 ans, celle qui posait toujours des millions de questions sur l'évolution de son propre corps, qui me demande tout go. « T'as vu là-bas ce qu'ils ont fait ? Tu y es retourné ?» Je dis non. Je dis « J'ai appris aux infos et je voulais juste vous retrouver. » Je dis que nous reviendrons demain, que je fais des démarches. Qu'Anaïs et moi ne les oublions pas. Qu'Anaïs rentre dans 4 jours et que je sais déjà qu'elle se précipitera pour les voir. Il sourit. Anaïs est mon amie, celle qui me les a fait connaître. Il l'adore et c'est réciproque. Il manque 2 personnes dans cette salle et j'essaie de m'informer de leur sort. Mes amis Fabien et Clara. J'ai eu Fabien au téléphone le jour de l'expulsion. Il me disait que sa femme et lui allaient bien et de ne pas m'inquiéter, qu'on s'appellerait, qu'on se verrait bientôt. Personne ne sait trop où ils sont. Dès que nous avons fait nos adieux, je les appelle. Et là, le choc. Pour la première fois depuis que je le connais, Fabien me dit « Oh Mélika, ça va pas du tout. On n'a plus de maison, plus rien. Et la Clara, très malade. » Rendez-vous au métro le plus près, pour comprendre, pour chercher des solutions. Nous les attendons et tout à coup je les vois. Et je me vois devant Philippe et mon fils courir vers eux comme dans un film. Je ressens la fierté, enfin, de pouvoir les présenter, la peur de savoir ce qui leur arrive, la peine de voir dans quel état ils sont, et le déchirement devant cette détresse qui se sent jusque dans la démarche, autrefois si fière, de Fabien. Je me jette dans ses bras, et pendant qu'il serre la main de mes 2 chéris, je prends Clara contre moi. Elle pleure. Elle est pâle comme la mort. Elle a une grippe et une rage de dents. Et manifestement, un truc qui s'apparente à une descente d'organes. Elle souffre le martyr. Elle a une ordonnance qu'aucune pharmacie n'a voulu honorer. Et plus un rond en poche. « Mais Fabien, pourquoi tu m'as pas appelé ?»« Plus de forfait sur le mobile. » Il me raconte. Le jour de l'expulsion, ils étaient partis à l'aube tous les deux. Ils sont revenus pour trouver tout le camp détruit par les bulldozers et tous leurs voisins partis Dieu sait où. Ils n'ont même pas pu récupérer les photos de leurs enfants et petits-enfants, pas même quelques vêtements, pas même le billet de 50 euros que Fabien conservait amoureusement pour l'envoyer à sa fille en Roumanie. Ils se sont retrouvés dans un endroit qui donne l'impression que leur bidonville était un village de vacances de luxe. Une sorte d'agglomération d'entrepôts désaffectés, cachés derrière un immeuble abandonné, où d'autres Roms les ont accueillis, mais qui, on leur a annoncé, subira le même sort que leur ancien bidonville, et ce mardi matin au plus tard. J'ai mal au cœur lorsqu'ils me le font visiter. Je pense, il faut les convaincre d'aller rejoindre leurs potes à l'église. Ensuite, Anaïs, ses collègues des assos et moi devons vite trouver une solution, une vraie. Mais laquelle ? Laquelle ? L'urgence, c'est Clara en larmes qui se consume de douleur devant nous. Je n'ai même pas besoin de consulter Philippe pour savoir que ça y est, il est embarqué, il a vu, il sait, de première main, pas possible de revenir en arrière. Non seulement il me soutiendra dans cette lutte, mais il l'amènera à mes côtés, les mains dans le cambouis. Nous donnons à Fabien de quoi renouveler son forfait téléphonique et emmenons Clara chez un pharmacien. Et là, nous assistons à une sorte de petit miracle pascal. Un pharmacien de la Guillotière qui accepte de nous ouvrir les portes de sa pharmacie, fermée. Nous sommes entre midi et deux un samedi. Son collègue et lui nous reçoivent avec une délicatesse, une gentillesse, un respect et une bonté rares. Clara en pleurera au retour dans la voiture. Nous avons rendez-vous mardi chez lui pour finir d'honorer l'ordonnance, une ceinture lombaire, et pour trouver un dentiste digne de ce nom. Nous allons la déposer là où Fabien l'attend, dans leur nouveau chez eux. Nous nous embrassons et nous promettons de nous téléphoner le lendemain. Mon fils adore déjà Clara. Dans son petit siège de voiture pour enfants, il crie plusieurs fois son nom. « au revoir, à bientôt !» Sur le chemin du retour, nous parlons peu, mon amour et moi. Je vois le visage de Philippe au volant, qui a du mal à se concentrer sur la route. Ses mâchoires serrées, cette colère sourde, son impatience lorsqu'il éteint la radio, où on parle salaire de sportif, MEDEF, changement d'heure, etc. Il me semble d'écrire cette histoire, à mesure qu'elle avancera, de faire vivre mes amis roms sous vos yeux, de vous les faire connaître, et qui sait, comprendre. Il me dit qu'il est sous le choc, que lorsqu'on pense se douter de ce que c'est, même quand votre femme vous le raconte à son retour, on ne mesure pas vraiment. On ne mesure rien du tout. Lui non plus ne sera plus jamais le même. J'ai eu le bonheur de revoir le joueur de violon aussi à l'église et de le serrer dans mes bras. Son instrument, son gagne-pain, a été écrasé par un bulldozer. Je lui ai promis de vous mettre un message si vous êtes dans les parages lyonnais, que vous savez où et comment je pourrais lui en trouver un autre, si vous connaissez quelqu'un qui voudrait lui faire ce don, je vous en prie, faites-moi signe. Je lui remettrai et lui demanderai de me jouer ce morceau qu'il m'a joué la première fois que nous nous sommes rencontrés pour me remercier de lui avoir offert des chocolats. Mais c'est comme essayer de vider l'océan à la petite cuillère. Je me souviens bien m'être interrogée sur la validité de cette affirmation et sur toutes ses ramifications. Et puis je me souviens, lors de notre première visite ensemble au camp, toutes les questions ont disparu. Nous étions là avec eux, à échanger, à donner et à recevoir, à se reconnaître mutuellement comme êtres humains dont la dignité, de part et d'autre, n'avait pas à être remise en cause. Et j'ai vu, j'ai su que ces questions d'océan et de petites cuillères peuvent vite devenir des parades pour se justifier de ne pas agir. Et qu'elle se trompait d'objet. Je n'aide pas ces quelques personnes parce que je veux sauver les Roms avec un grand R et réformer le système avec un grand S. Je vais vers ces quelques personnes parce que, puisque je les considère chacune comme une personne, chacune de ces personnes en vaut la peine. Point. Je n'ai pas besoin que leur nombre se multiplie pour trouver que cette aide a un effet. Et pour tout dire, ça commence sérieusement à m'énerver quand on me dit que ces gestes d'aide ne sont que ponctuels. Ah oui, le fait par exemple que deux enfants qui couraient pieds nus dans le froid aient des bottes aujourd'hui, parce que ça ne réforme pas tout le système, c'est anodin, c'est ponctuel. Vous trouvez ? Le fait qu'une mère ait des couches pour son bébé pendant quelques jours, le fait que mon amie Clara, qui a été expulsée de ce camp et s'est retrouvée à la rue malgré ses problèmes de santé, se soit fait soigner, qu'on ait découvert juste à temps un abcès dans la joue qui aurait pu la tuer s'il s'était étendu jusque dans sa gorge. Vous trouvez ça ponctuel, vous ? Eh bien, c'est sans doute parce que c'est pas à vous que ça arrive. Oui. Je suis devant l'océan, avec une petite cuillère. Et je m'en moque. Je n'attendrai pas que le réel change et s'accorde à mes désirs pour faire quelque chose. Si j'attends ça, des gens en crèveront, carrément. La mésaventure de Clara, dont j'ai appris hier en l'emmenant se faire soigner qu'elle a failli y passer, me le rappellera toujours. Et toi, Anaïs, tu m'as appris une chose. Ce n'est pas tant que nous tentons de vider l'océan à la petite cuillère, en réalité. C'est que face à la grande sécheresse de notre société, devant la misère bien réelle de certains êtres humains, les gens comme nous sont autant de gouttelettes éparses qui, à force de se trouver, de se fondre, finiront par former un torrent. Mais mes larmes dans cette salle d'attente, ces sanglots que je cache aux toilettes, ce sentiment dévastateur que je devrais cacher à Clara quand elle sortira de consultation, procèdent d'autre chose. Et soudain, je vois exactement le moment où tout a basculé. C'était il y a une semaine. On avait appris qu'étaient comptés les jours de Clara et Fabien dans le squat qui venait tout juste d'intégrer, après la destruction au bulldozer de leur précédent lieu de vie. Que la ville avait coupé la source d'électricité de l'entrepôt désaffecté où eux-mêmes et quelques 200 autres personnes vivent, certains depuis des mois. Électricité dont ils savaient bien qu'ils n'étaient pas censés se servir. Mais le moyen de recharger leur téléphone portable qui sont le seul lien avec le monde extérieur ou d'avoir un peu de lumière le soir, sans cette petite tricherie. Bref, plus de courant, éviction imminente, et un jour où je téléphone pour avoir des nouvelles et demander ce dont ils ont besoin, pas moyen de les joindre, pendant 24 heures. 24 heures où je n'ai cessé de penser à tous ces moments passés dans l'une ou l'autre des cabanes que Fabien a construites de ses mains, à boire le café, à discuter, à rire, à chercher des solutions, et même une fois, à déguster des spécialités roumaines, cuisinées toute la matinée par Clara avec les victuailles qu'on lui avait données pour la semaine au Secours populaire. Et là, je précise que Clara, elle n'a pas cuisiné ça sur une plaque céramique, hein, pas du tout. Elle a cuisiné ça sur une espèce de poêle que vous avez peut-être vu dans les marchés, qui est un gros bidon percé de trous à l'intérieur duquel on met tout et n'importe quoi de combustible et souvent des choses dangereuses, à savoir des morceaux d'aggloméré, du bois traité. Et on met une plaque métallique par le dessus et on chauffe et on cuit ce qu'il faut chauffer ou ce qu'il faut cuire pour faire la cuisine, pour faire la toilette, etc. 24 heures où j'ai pensé à comment j'avais finalement, il y a peu, décidé que oui, une fois par semaine, s'il le faut, pendant des mois, s'il le faut, j'allais accompagner Clara dans tous les rendez-vous médicaux nécessaires pour la remettre sur pied. Comment, en réalité, contrairement à ce que je me serais imaginé une fois la décision prise, c'est devenu la chose la plus simple, la plus naturelle, la plus facile, à intégrer au tissu de ma vie. 24 heures, où j'ai pris la mesure de combien je tiens à ces rêves que nous avons échafaudés ensemble une fois chez eux, en rigolant et en buvant du coca. Fabien, qui parle un français tout à fait respectable et qui est un ouvrier du bâtiment, pas seulement méticuleux et professionnel, mais même talentueux. Et alors, nous nous imaginions tous ensemble, avec Anaïs, nos hommes et nos enfants, invités dans leur premier studio, qui serait retapé miraculeusement par Fabien et décoré avec amour par Clara. Je voyais déjà la première fois où je les présenterais à mes amis, les photos de nous tous dans leur premier appartement français que j'enverrais à mon père. Je voyais des projets avec Clara et Fabien. Dans cette salle d'attente, je vois maintenant que l'avenir dont ils n'osaient plus rêver et celui que je me suis déterminée à les aider à faire advenir se sont, comme nous, rencontrés. Et lorsque Clara sort de chez le dentiste, que nous allons à la pharmacie acheter les antibiotiques, qu'elle me pointe du doigt une vitrine de boutique féminine et qu'elle me promet qu'un jour, nous irons ensemble nous acheter des robes d'été, qu'ensuite nous marcherons en faisant voler nos longues jupes ensoleillées, en nous tenant par le bras dans la rue, et qu'elle le fait, qu'elle me prend par le bras et qu'elle m'embrasse sur la joue, et que nous rions comme des gamines, et qu'elle me raconte, des étoiles dans les yeux, la fête que nous ferons lorsqu'un jour Fabien et elle auront un véritable chez eux. Je nous y vois. Des nouvelles de Paul, le violoniste qui avait vu son instrument écrasé par les bulldozers. Il y a quelques jours, une dame charmante, rencontrée par ce blog, a pris sa voiture et roulé une heure dans les bouchons pour nous apporter un violon ayant appartenu à son mari. Il nous faut maintenant en changer les cordes et réparer l'archet. Nous avons plusieurs pistes. Par le plus fou des hasards, j'ai croisé Paul aujourd'hui, lorsqu'avec Clara, nous sortions de Lyon 2. Je lui ai raconté ça. Et la générosité de tous ceux qui se sont et continuent de se mobiliser pour remplacer son instrument. Il était sans voix. Quelques jours plus tard, Ouest France, Lyon, 3 morts dans l'incendie d'une ancienne usine occupée par des Roms. Rue Audibert à Lyon. J'aurais du mal à écrire ce matin. Mes mots seront maladroits. Ce squat, je le connais. Ces gens, je les connais. Ces enfants, je leur ai apporté des petits jouets. J'ai discuté avec certains d'entre eux qui m'ont raconté leur vie d'écolier, pas comme les autres. Mon mari et mon ami Anaïs étaient encore là hier pour leur faire la lecture. Nous avons discuté avec leurs parents. Nous avons salué leurs voisins. Nous avons rigolé dehors, devant les bâtiments, au soleil, au milieu des poubelles et des meubles éventrés. Parler du beau temps et du retour de la chaleur, comme si nous n'étions pas au milieu de la misère la plus désespérante. Nous avons discuté et rigolé, même au milieu de la misère et des ordures et des meubles éventrés, parce que des êtres humains qui se reconnaissent entre eux et décident de se considérer mutuellement, de se respecter, de se saluer, savent que ce bonheur et ce partage-là valent bien davantage que le confort de celui qui est venu aider ou que la misère de celui qui a besoin d'aide. Ce squat qui abritait près de 300 personnes, hommes, femmes et enfants roms, disséminés dans plusieurs bâtiments, dont celui de la tragédie de cette nuit. C'était celui où étaient venus se réfugier mes amis Clara et Fabien. Il s'y était construit une cabane coquette et étonnamment sophistiquée, que Clara avait pris le temps de décorer. Chaque fois que nous venions les voir, elle avait ajouté une nouvelle touche à la décoration. Et Fabien qui se met à rêver tout haut, pendant que Clara retient ses larmes. « Oui, Anaïs, Mélika, juste une pièce, un terrain même, et je construis une petite maison dessus, une petite maison à nous, et j'aurai le droit de travailler, et nous ferons une grande fête, tous ensemble, une grande fête !» Ils ont été évacués en catastrophe, et sans doute n'ont-ils pas pu emporter grand-chose. Tout ce qu'ils ont amassé depuis leur arrivée là-bas fin mars, après la destruction du petit squat villeurbanais où je les ai connus, ils ont dû l'y laisser. Tout est, encore une fois, à recommencer. Nous le savions, évidemment. Mais chaque fois, il y avait ces moments d'amitié dans les cabanes avec les enfants qui jouaient, les parents qui faisaient la lessive, la cuisine, venaient discuter, offrir une cigarette, dire bonjour. Je sais pas, je pense que ces moments avaient le pouvoir à la fois magnifique et dangereux de nous faire oublier le reste, la gravité du reste, ce que ce pays, comme tant d'autres pays d'abondance, fait à ses démunis, sans pitié, sans égard pour leur âge, leur histoire et même leur humanité. Ce pays où le cynisme a remplacé tout le reste et où l'on préfère considérer ceux que l'on ne comprend pas comme des rats, une vermine dont il faut se débarrasser, une engeance dont on aime à dire, avec l'arrogance et la fierté irréfléchie du con le plus glorieux, que même en n'ayant rien, elle nous vole quelque chose. Il y a des jours où je saisirais certaines personnes par le col pour les y traîner et les forcer à se mettre à genoux, à même la terre battue, pour regarder les enfants roms dans les yeux, regarder les efforts que font leurs parents, même dans toute cette misère, regarder les cahiers d'école avec les exercices, le café qu'on offre aux visiteurs, les vêtements qui sèchent au soleil sur des cordes à linge de fortune, ces ordures qui traînent partout parce que la ville refuse de les ramasser, ces visages qui ont vu ce que personne jamais ne devrait voir, et qui trouve néanmoins la force de vous offrir le sourire le plus radieusement timide du monde lorsque vous avez la décence de les saluer et de les regarder avec respect, avec bienveillance. Vous pensez que ces pères, ces mères, ces maris et femmes ne s'aiment pas comme vous, comme nous ? Que ces enfants qui ont vu l'immeuble flamber cette nuit, entendu les cris, appris qu'il y avait des morts, ces enfants qui errent de squat en squat et qui essaient de continuer d'aller à l'école, ces enfants dont les parents n'ont pas le droit de travailler, qui ont fui un pays où ils étaient déjà des parias pour arriver ici et voir ces choses horribles, vous pensez que ces enfants sont différents des vôtres ? J'arrête. La colère m'empêche de continuer. Je repense à notre rendez-vous chez le dentiste avec Clara, vendredi dernier. Nous avons passé 4 heures ensemble. Elle souffrait le martyr et en avait par-dessus la tête de cette vie. Mais Elika, je n'ai pas de maison, nous ne pouvons pas travailler. Et là-bas, c'est pire, me disait-elle, en me tenant la main et en essuyant ses larmes. Et elle trouvait quand même moyen de me forcer à raconter ce qui n'allait pas de mon côté. J'étais bien fatiguée ce jour-là, préoccupée, et elle voulait que je lui raconte. J'arrête, c'est trop dur. 23 mai 2013, le café du gymnase. Je ne suis pas certaine de réussir à écrire de manière cohérente sur ce que j'ai vu et vécu dans le gymnase où sont réfugiés les 189 et désormais 190, puisqu'une petite fille a vu le jour. 190 Roms qui ont survécu à l'incendie de leur squat à Lyon il y a une dizaine de jours. Je ne suis pas certaine de pouvoir suivre un fil, construire un récit. Dans l'attente de savoir ce qu'il arrivera à ces gens le 27 mai, jour où la trêve du gymnase est censée prendre fin, il est difficile de prendre du recul, de remettre les choses en perspective. La préfecture le proposera-t-elle, comme on l'a lu dans les journaux, d'entrer dans un programme d'intégration? Les laissera-t-on de nouveau à eux-mêmes? Leur proposera-t-on un autre hébergement d'urgence? Jusqu'à quand? D'ailleurs, remettre les choses en perspective, je le constate, ça fait mal, puisque ça signifie aussi penser aux problèmes roms européens dans son ensemble et à la cruauté des hommes et à la place trop prépondérante que l'on accorde aux discours extrêmes et haineux, voire à la désinformation raciste et homophobe dans les médias de ce pays. Non. Aujourd'hui, quelques 10 jours après le drame, j'ai envie de m'extraire des gesticulations médiatiques ou politiques, des éructations des ignorants et des haineux. Et la seule manière d'y arriver est de penser en instantané et de les décrire, toujours dans le même but. Que les mots dessinent les visages d'humains qu'ils ne méritent certainement pas moins que les autres, que l'on les traite avec respect, voire avec tous les égards dus à des gens dotés de tant de courage et de patience. J'aurais presque envie de dire qu'ils le méritent davantage que bien des gens que j'ai vus ces derniers jours s'agiter derrière des écrans ou devant des micros. En retenant mon souffle en attendant le 27 mai et en me demandant ce qu'il adviendra, notamment de Clara et de Fabien, je suis habitée par les images d'instants passés au gymnase. Au moment de notre première visite avec Philippe et le petit, les visages de tous ceux que je salue et que pour la plupart je connais peu ou pas du tout, les serments de mains chaleureux de certains avec qui nous parvenons à discuter un peu pour leur dire combien nous sommes désolés. Juste ça. Qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a des gens dont les moyens et pouvoirs sont certes limités, mais qui veulent néanmoins se battre pour eux. La chaleur de ses mains qui serrent la vôtre, la chaleur dans ses regards, humaine. Là-bas, à quelques mètres, assise sur une couchette, la jambe terriblement enflée, le visage défait, la bouche tordue par la douleur, Clara. Moi qui cours vers elle, moi qui m'assieds à ses côtés, nous nous serrons l'une contre l'autre. Elle pleure, je me retiens. Je lui caresse les cheveux. Elle me couvre les joues de baisers, je lui embrasse le front. Nous passerons un petit moment ainsi, avant de pouvoir nous parler, avant que je puisse lui demander « C'est quoi ta jambe ? Et tes dents ? Ça te fait encore mal ? Trop mal pour attendre notre prochain rendez-vous chez le dentiste ? Et ton ventre ? Et les médecins du monde, ils ont dit quoi ? Ils t'ont fait une ordonnance ? Donne vite, nous allons... Avec la voiture, je vais voir le pharmacien qui nous aide depuis le début. Je vais te chercher tout ça. Nous revenons. Je te serre encore contre moi. Mon fils veut te faire sourire. Et il se cache derrière son père, sort la tête et fait « Coucou Clara !» Et ça fonctionne. Presque. Presque. Au retour de la pharmacie, Clara et Fabien et tous les autres sont attablés. On leur sert une omelette et du riz. Ils ont du café, du chocolat, on s'occupe d'eux. Mais Fabien a sa tête des mauvais jours, le regard vacant, comme s'il s'était absenté de ses propres yeux pour se tourner vers des choses plus noires et plus tristes que tout ce que j'ai pu voir dans ma vie de femme. Et Sylvain, son fils de 9 ans, est en France depuis qu'il est bébé. Il va à l'école depuis des années, il me raconte, fier, que le lendemain même du drame, Et même si l'école se trouve désormais à l'autre bout de la ville et qu'il a encore du mal à mémoriser le trajet en tram, eh bien il y est allé à l'école. Il continue d'y aller tous les jours parce qu'il a réussi à récupérer son cartable avant l'évacuation. Enfin, j'y vais pas le mercredi, tu sais, parce que le mercredi, il n'y a pas d'école. Mais ils sont venus ici et ils ont fait comme on faisait au squat, l'atelier peinture du mercredi après-midi. Puis apercevant mon fils, qu'il avait déjà vu une ou deux fois, « Hey, coucou toi, comment ça va? C'est chouette de te voir !» J'ai le réflexe de prendre la main de Sylvain, une ou deux fois. Une manière de lui témoigner mon admiration, je crois. Un élan. Mais je remarque qu'il retire la sienne tout en continuant à me sourire, à discuter avec moi. Il n'aime peut-être pas qu'on le touche. Oui, alors ça, c'est une caractéristique, je crois, un petit peu québécoise. Les Québécois, ils communiquent beaucoup et ils sont très tactiles. Je me souviens de la grosse inquiétude que j'avais eue un jour en autostop quand le Québécois qui nous avait pris en stop avec une camarade, ce Québécois avait mis sa main sur la mienne. Mais j'en menais pas large du tout. Mais il ne m'est rien arrivé. Après tout, nous nous connaissons peu. J'éviterai désormais de le faire. Je m'arrangerai pour que mon admiration passe par les yeux. Comme avec cet homme qui lui ressemble terriblement et dont je n'ai pas osé demander s'il était son père ou son oncle. Un homme à la fois chaleureux et réservé, ricaneur et timide. Clara et Fabien les voilà et nous ont vus. Philippe et moi. Ils marchent vers nous. Ils ont repris du poil de la bête. Ils sourient. Fabien laisse passer Clara devant lui. Elle me serre dans ses bras. Je fais la bise à Fabien, ce qui le surprend toujours. Il serre la main de mon mari qu'il appelle avec un air taquin et affectueux « Monsieur Philippe ». Et alors il se passe ce moment merveilleux. Fabien et Clara se saisissent de deux longs bancs et les placent face à face de manière à ce que nous puissions nous asseoir tous les quatre dans notre coin et discuter. « C'est comme au café, » déjà Fabien en souriant. « Ah, mais tu sais, il y a du café par ici. Et si t'en veux, Mélika, je vais t'en chercher. » Je serais bien incapable d'avaler quoi que ce soit. Trop ému. Nous avons discuté de l'échéance du 27, des projets d'intégration que la préfecture aurait pour eux, de leur enthousiasme devant un tel projet. Nous rencontrons Valérie, qui est en charge d'eux, charmante et franche, généreuse. Elle nous accueille et nous informe et nous dit la vérité, ce que nous pouvons espérer, ce sur quoi il faut attendre un peu avant de tabler. Comment il faut éviter de s'emporter pour le moment. Philippe et elle décident d'organiser ensemble une distribution de vêtements quelques jours plus tard. Elle a la bienveillance et la lucidité de ceux dont l'engagement ne date pas d'hier et qui ne renonceront jamais. Comme Gilberte, ange gardien que tous ici connaissent, que j'ai eu quelquefois par courriel ou au téléphone et qu'il me tarde de rencontrer. Ces gens qui ont tant à m'apprendre. Nous continuons à papoter dans notre coin, tous les quatre. Et oui, c'est vrai, nous rêvons un peu, au café improvisé du gymnase des Roms, avec Clara et Fabien, face à face et yeux dans les yeux, sur nos bancs d'église en bois, teint bleu ciel. Mais notre seul tort, c'est de rêver de choses qui, dans un monde moins mal fichu, serait accessible à tous les êtres humains de bonne volonté. Message de Gilberte Renard de l'association Classe. À midi, les corps ont été rendus aux familles. Un moment de recueillement a eu lieu avant leur départ en Roumanie où ils pourront enterrer leurs proches. Ça a été un moment très difficile, très très douloureux pour les familles. Vous vous en doutez, et pour nous aussi. Salah était dans le gymnase où elles étaient depuis l'incendie. Vous vous rendez compte, dans un gymnase sans aucune intimité, 190 personnes, des lits de camp collés les uns aux autres, avec plein de jeunes enfants, des bébés. Un enfant est né la semaine dernière qui pleurait toutes les nuits, comme beaucoup d'autres, et pas que les enfants. Et cet après-midi, est affiché le nom des personnes qui seront dans le dispositif Andatu et qui seront hébergées à la caserne, 60 personnes sur 170. Les familles rejetées sont complètement anéanties. Certaines avaient fait de gros efforts pour faire scolariser leurs enfants. Toutes vivent cela comme une injustice, et cela est une injustice inqualifiable. Demain matin, 60 personnes auront un logement et 110 personnes seront jetées à la rue avec la fermeture du gymnase. Donc demain, mercredi après-midi, il n'y aura pas d'atelier de peinture. Donc aujourd'hui, ce sera un chapitre consacré à la description de moments suspendus dans le gymnase. Ces moments où, contre toute logique, un pernicieux sentiment de sécurité, une impression de répit, une ombre d'espoir s'installe. Énième sursis, depuis qu'en décembre 2012, les Roms sont entrés dans ma vie, pour reprendre l'expression si juste de Gilberte. Ma plus récente visite, c'était dimanche. Je ne savais pas encore que c'était la dernière. Oui, je me suis comme attachée au sentiment éprouvé au moment d'entrer dans le gymnase, celui où l'on voit les couchettes, les gens allongés ici et là, ceux qui sont assis à des tables et qui discutent doucement, ceux qui sont dans la cour en train de fumer, les enfants qui courent et jouent, ceux qui demandent de quoi dessiner, les sourires bienveillants et les regards vigilants des agents de sécurité et des pompiers, l'accueil des bénévoles. Je l'avoue, me rendre compte que c'était dimanche la dernière fois me déchire. J'arrive et je discute un moment avec Maurice, celui que nous appelons tous le patron, en charge d'eux avec la charmante Valérie. Il s'occupe de l'accueil et de tenir les registres des entrées et sorties. Les gens ici l'apprécient. Il me raconte que Valérie et lui ont procédé à la demande des autorités au recensement de tous les occupants du gymnase, décrivant pour chaque famille la situation, le nombre d'enfants scolarisés, le nombre de bébés, l'état de santé des uns et des autres, et ainsi de suite. Il espère que d'ici quelques jours, une bonne partie de ces gens sera relogée et se verra proposer des solutions à long terme. À côté de lui est assis un jeune homme rome dont je ne connais pas le nom. Ils ont une discussion enflammée à laquelle ils me convient. Le jeune homme parle de l'injustice que c'est de se voir catégorisé, enfermé dans un stéréotype. Simplement parce que, comme dans tout groupe humain, il y a toutes sortes de gens, dont des personnes peu recommandables. Il me parle de lui, de ses projets. Son français est excellent. Son regard à la fois enflammé et doux. Souriant, Maurice lui dit « C'est ce que je te disais tout à l'heure. Si tous ces gens apprenaient à vous connaître un peu, ils seraient bien honteux de leurs préjugés et ils vous apprécieraient à votre juste valeur. Faudrait leur imposer à tous quelques heures de service auprès de vous, histoire de leur ouvrir les yeux. » Je ne sais pas si ce jeune homme rome fait partie des 60 ou des 110. Là-bas, Philippe et le petit sont entourés d'enfants. Ensemble, ils lisent des histoires. Les enfants sont assis en cercle autour de mon mari. Mon fils se tient debout à côté de son père et commente, explique pour eux ces histoires qu'il connaît par cœur puisqu'il s'agit de livres à lui qu'il a tenu à apporter aujourd'hui. La séance est joyeuse et animée. Les questions fusent et les exclamations aussi, dans tous les sens. Le petit Sergueï, aux yeux de velours, 9 ans et bientôt 10, est dans le groupe. Depuis l'incendie, Philippe me dit avoir remarqué que son regard a changé, que quelque chose s'est durci, ou plutôt que quelque chose s'est perdu, quelque chose comme la candeur. Sergueï est ce petit qui adore l'école et qui, comme bien d'autres enfants du gymnase, a continué d'y aller tous les jours, même au lendemain du drame, même si c'était à l'autre bout de la ville. Ses parents, sa sœur, son petit frère et lui-même font partie des 60. en attendant que le bureau de consultation improvisé de Médecins du Monde ouvre et que je puisse y accompagner Clara, dont le ventre l'a fait terriblement souffrir. Nous sortons toutes les deux dans la cour arrière et nous asseyons sur un banc pour fumer avec deux dames. L'une d'entre elles a 4 enfants. Elle rêve de trouver une situation normale ici et de leur offrir une stabilité. 4 enfants scolarisés, ça devrait être suffisant comme dossier pour qu'elle ne se retrouve pas bredouille après la fermeture du gymnase. Je lui réponds qu'il me semble que oui, mais que je ne sais pas, bien sûr, que j'espère. Je demande de ses nouvelles à la femme assise à côté d'elle, avec dans le sourire cette lumière que je n'oublierai jamais, à la fois rieuse et triste, avec cet air qui semble dire « Je suis fichue et je le sais. » Elle me répond « Moi, je n'ai pas d'enfant. » Elle me sourit et on se regarde qu'ont chaque fois les Roms à qui je parle. Ce sourire qui dit quelque chose comme « Merci de me considérer. » Ce matin, je ne sais pas si ces 2 femmes et les 4 enfants de la première font partie des 60 ou des 110. Mais je sais que toutes les familles d'enfants scolarisés n'ont pas été retenues. Et à la fin de cette dernière visite au gymnase, où je n'ai pas su m'empêcher d'espérer, j'ai accompagné Clara dans le cabinet improvisé de Médecins du Monde. Et là, j'ai vu de mes yeux, sous les mains délicates et attentionnées du médecin, ses organes se déplacer dans son ventre, comme un bébé dans celui d'une femme enceinte de 9 mois. Depuis, je me suis occupée de lui faire fabriquer sur mesure une ceinture abdominale qui devrait être une sorte de salvation temporaire grâce aux généreux dons d'une grande amie de Montréal, délicieuse et merveilleuse Anna. Ceinture qui sera prête dans 1 semaine et je dois l'accompagner à long terme, mettre en place un suivi médical sérieux. Tous les médecins qu'elle a vus et avec qui j'ai parlé, tous les professionnels que j'ai vus l'examiner, y compris l'excellente et bienveillante orthopédiste à qui nous avons commandé la ceinture hier, ont eu le même regard. Ce regard, je commence à savoir ce qu'il signifie. Si les choses restent telles qu'elles sont depuis qu'elle est arrivée ici en 2009, Clara est en danger de mort. Depuis hier soir, je le sais, Clara et Fabien ne font pas partie des 60. 1er septembre 2013, Christian Conxiqueur, France 3, Rhône-Alpes. Vaux-en-Velin, un camp de Roms ravagé par un incendie. Le feu s'est déclaré en début d'après-midi dans un des campements Roms de Vaux-en-Velin de 2000 m². 4 blessés légers sont à déplorer et 300 à 400 personnes seraient à reloger. Le maire en appelle au préfet. Je rentrais d'un mois de retrouvailles avec Montréal le jour où le campement de Vaux-en-Velin a brûlé. Je suis rentrée pleine de crainte parce que je savais que leur situation ici ne se serait pas améliorée. Pleine d'espoir parce que Christian, Québécois comme moi, grand voyageur, photographe follement doué, Christian et moi avons désormais le projet de transformer ce blog en livre illustré dans lequel ces photos viendraient dire ce que les mots ne peuvent qu'échouer à dire. Pendant que je survolais l'océan, la belle Viviane et ses 6 enfants fuyaient les flammes. D'ailleurs, tous nos amis, à Anaïs et à moi, de l'ex-terrain de la rue Léon Blum, ont vu leur cabane partir en fumée sans exception. Paul était en train de faire les poubelles quand tout ça est arrivé. Il n'a pas eu le temps de récupérer le violon que nous lui avions donné pour remplacer celui qu'un bulldozer avait détruit et qui était devenu une sorte de symbole d'espoir, un peu cucu certes, mais sacrément important pour nous. Parti en fumée. Je vous jure, on croirait un roman, mais c'est la bête et conne vérité. Le nouveau violon de Paul a cramé, tout comme le chien de la petite Alexia, 12 ans, l'une des filles de Viviane, qui a dormi ce soir-là à 2 pas de son corps carbonisé. Viviane a raconté l'incendie à Anaïs, comme elle faisait la sieste avec son bébé d'un an, comment elle a eu juste le temps de l'attraper par les bras avant de courir, courir, courir. avec derrière ses 5 autres enfants et son mari Rolando. Personne n'est mort, mais aujourd'hui, ils vivent cachés sous un périph, crevant de faim et de soif avec d'autres familles. Plusieurs d'entre elles ont de jeunes enfants qui n'ont pourtant pas été relogés. Sur un site d'info annonçant la nouvelle de l'incendie, dans les commentaires, un homme avait écrit « Merci à celui qui a foutu le feu ». Je suis allée rendre visite à Clara et Fabien dès que j'ai pu. Ils allaient bien, même si nous avons encore beaucoup à faire pour la santé de Clara et que nous sommes toujours aussi inquiets. Comment la sortir de là, alors qu'elle vit une vie aussi incertaine, aussi instable? Ils étaient depuis plus de 2 mois accueillis par une bande d'anards battants et généreux, avec d'autres familles roms et des tas de gens différents, dans un squat très bien organisé. Leur situation à tous était prise en main par 2 avocats bénévoles. On leur avait attribué une chambre privée avec eau et électricité et un lit. Ils l'avaient aménagée et avaient quelque chose comme le sentiment d'être enfin de nouveau chez eux, même s'il n'y avait pas la possibilité de voir les choses à long terme ou de faire des projets. C'était comme lorsque je les avais connus en décembre 2012 et que Fabien leur avait construit une cabane incroyablement élaborée et décorée par les soins de Clara, où ils logeaient depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et qui a été écrasée par un bulldozer avec toutes leurs affaires, avant qu'ils ne se réfugient dans un squat qui a brûlé quelques semaines plus tard, puis au gymnase, puis dans un autre squat, puis dans celui où ils sont actuellement. Les avocats qui luttaient pour prolonger le séjour des habitants du squat Cherita n'ont pas réussi à le faire davantage. Tout le monde doit quitter les lieux lundi matin. Ils auraient été traités avec déférence par les gens du commissariat, venus leur annoncer la nouvelle. Parmi eux, Fabien m'apprend qu'il y a 2 familles françaises dont les parents travaillent mais ne gagnent pas assez pour louer ne serait-ce qu'un studio ou loger eux-mêmes avec leurs enfants. Ses parents vont travailler tous les matins comme les gens normaux et le soir, ils rentrent retrouver leur famille dans un squat du 7e arrondissement de Lyon. Chaque fois que j'y suis allée, l'ambiance était chaleureuse, les habitants souriants, le café chaud, l'eau fraîche, les rires francs. Je suis partie ce jour-là avec un cadeau de la part de Fabien et Clara, que j'ai voulu refuser, mais qu'on m'a forcé à prendre. Un gigantesque rôti de porc congelé, calé dans le panier de mon vélo. Il leur avait été offert par une commerçante du coin qui les aime bien. Je suis rentrée avec une boule d'angoisse au ventre. Je ne sais pas exactement pourquoi. Pourtant, nous étions si heureux de nous revoir, Clara et moi, avec force larmes et câlinerie qui faisaient rire Fabien, et ce dernier à coups de blagues et de taquinerie. Peut-être parce que nos moments de joie sont comme des perles, des fleurs magnifiques qui poussent sur un tas de fumier, et que nous le savons tous les 3. Quelques jours après mon retour, je suis allée voir une amie. Avant de me rendre chez elle, je devais m'arrêter à un tabac. J'en ai trouvé un sur une place lyonnaise prisée par les touristes. Pas le moindre bout de clôture ou de poteau pour attacher mon vélo. Devant le tabac, assis à même le sol, un homme rome d'une 30aine d'années, en larmes, tenait une pancarte sur laquelle était écrit « J'ai 4 enfants, je suis prêt à travailler, aidez-moi, merci ». Nous nous sommes regardés. Je ne sais pas qui de nous deux a parlé en premier. Je sais seulement qu'il m'a proposé de surveiller mon vélo pendant que j'allais chercher des clopes. Et je lui ai dit, en sortant, que je viendrais le voir pour que nous puissions discuter et pour lui donner toute la monnaie que je pouvais. Je suis ressortie du tabac avec quelques euros, je l'ai remercié pour le vélo, je me suis assise à ses côtés, je lui ai donné l'argent et nous avons discuté. J'ai essayé de savoir où sa famille et lui ont trouvé refuge. Ce n'est guère mieux que pour Viviane et ses enfants sous le périph. Ceux du jeune homme étaient scolarisés, mais avec toutes les ruptures qui ont déjà eu lieu dans leur courte vie, l'idée a fini par être abandonnée. Je lui ai dit que j'étais désolée de ne pas pouvoir faire mieux, qu'ils ne sont pas aussi seuls qu'ils le croient, qu'il y a plein de gens comme moi, des concitoyens volontaires et convaincus. Il m'a pris la main et s'est mis à l'embrasser, à l'inonder de larmes. Je lui ai dit « Non, il ne faut pas, je vous en prie. Ou alors laissez-moi faire pareil. » Et alors je lui ai saisi la main et moi aussi je l'ai embrassée. Et nous nous sommes mis à rire. Je suis remontée sur mon vélo et je lui ai envoyé un baiser volant. Nous riions tous les deux, lui entre ses larmes et moi en retenant les miennes. J'entendais en boucle les paroles des gens lorsque j'étais entrée dans le tabac quelques minutes plus tôt. Des personnes qui discutaient et qui se disaient convaincues que j'étais une pauvre conne qui se ferait piquer son vélo et qui l'avait bien cherché et que c'était tant mieux. Anaïs et moi sommes maintenant accompagnés dans nos efforts par mon amie Nikki qui s'investit avec le même mélange de passion et d'inquiétude que nous. Il y a quelques jours, nous avons passé une soirée ensemble toutes les trois, histoire de faire le point, de se soutenir, de s'encourager, de se raconter, de rager et même de rire pour ne pas pleurer. Nikki aide une famille qu'elle croisait tous les jours en allant travailler, avec qui elle a discuté et à qui elle a apporté du soutien. Une femme, son mari et leurs deux enfants, à qui elle tient désormais comme à la prunelle de ses yeux. Pour eux, tous les jours elle prend du temps, leur apporte de quoi manger, des vêtements, de la compagnie. Elle se heurte pour eux à l'administration française kafkaïenne. Elle s'arrache les cheveux et passe des millions d'appels qui tournent en rond dans un système qui ne semble pas tourner rond. Elle nous raconte comment dans les services on se la renvoie comme une balle, lui disant toujours que c'est l'autre qui a la réponse à sa question. Parfois, c'est fait de manière courtoise, avec une conscience de l'absurdité de la situation. Parfois, c'est fait avec la méchanceté crasse des ignorants. Sur mon balcon, elle nous raconte tout ça. Et le fait que son amie Bernadette et sa famille n'ont, eux non plus, pas été relogés depuis l'incendie de Vaux-en-Velin, et ce, bien qu'un de leurs enfants ait moins de 3 ans. Une des personnes, polie, bienveillante, apparemment de bonne volonté, qu'elle a appelée, lui a répondu qu'il se pourrait qu'ils aient tout simplement été oubliés sur les listes. Et depuis, c'est le festival des démarches administratives qui ne mène nulle part et qui donne à Nikki envie de hurler. En attendant, Bernadette, son mari et leurs 2 petits dorment à la belle étoile. Entre les rires et la colère, Anaïs, Nikki et moi savons qu'il faut tenir bon. Même si le problème rome est d'une complexité et d'une énormité qui nous dépassent davantage à mesure que nous avons l'impression de mieux le connaître. C'est qu'en fait, ce n'est pas le problème rome qui nous intéresse. Ce sont les gens que nous croisons et l'horreur de leurs conditions dans une société riche. Oui, traitez-nous d'idéalistes, nous nous en moquons magistralement. Une société riche qui a tous les moyens de soutenir et d'élever à des conditions humaines et dignes tous ces démunis. Nous sommes 3 rêveuses enragées, 3 filles déterminées jusqu'à l'endettement, et le regard de celui qui se moquerait de nous ne nous fait ni chaud ni froid. Nous sommes 3 drôles de dames devant un océan, les pieds bien plantés dans le sable et criant « En garde !» en brandissant nos petites cuillères. Les vagues n'ont qu'à bien se tenir.
Voilà, si vous avez apprécié cette première partie du blog de Melika Abdelmoumen, j'en serais ravie. Si par contre, vous ne voulez pas écouter la suite, notamment l'histoire de Cendrillon, eh bien, il ne vous reste plus qu'à le signaler sur le cloud. Vous pouvez mettre vos observations. Ou bien, vous pouvez protester en hurlant à Canal Sud 92.2. Au numéro 09 65 16 61 64. Voilà. Comme ça, vous êtes prévenus. À bientôt.